Nous n'avons pas été parce que, j'allais dire, ils aménageaient leur stock et ils avaient un stock absolument incroyable. Ce qui fait que les voies littorales, celle de l'Espagne date de 1988, ça fait quand même 20 ans, mais tout était acquis et urbanisable avant l'émission de la loi. Donc après, les voies n'étant pas rétroactives, on a urbanisé puisque le sol était, le portefeuille foncier existait. Donc là, il y a un lien très fort et effectivement, la structure de la propriété et le coût de la main-d'œuvre ont été fondamentaux dans la localisation par les tours opérateurs des macro-stations. D'où Antalya, Coucha d'Assé, Benidorm, Faro, voilà, parce qu'il y avait cette logique directe, ce passage de l'économie agricole à une nouvelle logique d'accueil touristique, comme on vient de dire. Après, effectivement, on n'est pas tout à fait dans un autre monde lorsque je vous parle des resorts golfiques avec les villas, parce que c'est toujours une unité spatiale assez importante, quand même, qui apparaît. Les macros, les gros projets dont je vous parle, vous avez vu Cap Cop, vous avez vu Aguilas, peut-être, ce sont toujours des unités de plusieurs centaines d'hectares. Et donc là, la clé, en fait, c'est un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est que ces deux pays ont été intégrés à l'Union européenne en 1986, d'une part, mais deuxième phénomène majeur, ils sont entrés dans la zone euro en 2002 et ils ont une puissance bancaire très importante. Il y a Santander, il y a BBVA, il y a Caja Madrid, il y a la Caixa. Et donc, ces entités bancaires ont un accès, dans le cadre de taux d'intérêt très bas, à de fortes quantités de liquidités sur le marché international. Donc, il a été possible, en fait, de mobiliser des masses financières très importantes, de les mettre à disposition et des promoteurs. Les promoteurs se traînent une dette inimaginable, effectivement, à l'échelle espagnole et portugaise, parce que le crédit était très bas, et les banques ont prêté aussi bien aux promoteurs pour construire ces espaces, aujourd'hui à moitié vide, mais pas tous, hein, et aux acheteurs. Ça fonctionnait, qui s'aiment par les deux bouts. Donc, c'est la grande surface, la grosse opération, elle a été soutenue par la dynamique économique et financière des 15 dernières années, ce qu'on a appelé les 15 glorieuses de l'Espagne, 1994-2008. Pas tout à fait glorieuses, ça a été un temps de boom immobilier extraordinaire porté par cette logique financière. Je vais peut-être répondre aussi sur la superposition des réseaux de transport. On voit un réseau aéroportuaire qui se construit, qui se structure et se hiérarchise avec un très fort dynamisme. Il y a des aéroports publics et il y a une entité publique et d'ailleurs étatique, pourtant il n'y a pas grand chose d'étatique en Espagne, mais une entité étatique qui gère les aéroports, une bonne centaine d'aéroports, et qui fait des choix d'investissement très lourds sur le pôle madrilène, notamment le Tessour à Barajas a coûté 6 milliards, et plus récemment aussi parce qu'il faut compenser sur Barcelone, où là il y a le T1 qui a été inauguré l'année dernière, c'est quand même un petit peu moins cher, il y a des échelles. Mais l'État fait ses efforts sur ces grands hubs qui ont évidemment une logique qui n'est pas uniquement touristique, qui l'est, mais en fait, ils ne veulent surtout pas de low cost sur ces aéroports-là. Et la spécialisation se fait sur les aéroports secondaires. Barcelone, El Prat ne veut pas fonctionner avec le low cost puisqu'il y a Reus et Gérone qui, eux, fonctionnent à 97-98% avec du low cost et 30% des gens qui débarquent à Gérone ne vont pas à la Costa Brava. Ils font les 100 km dans la navette du low-cost pour aller à Barcelone. Donc il y a quand même une articulation qui se constitue et finalement dans une communauté autonome et peut-être demain à l'échelle de chaque province, il y a 53 provinces en Espagne, il y aura cette complémentarité à mettre en œuvre entre l'aéroport de ligne classique international et l'aéroport secondaire low-cost. On propose. Puis il y a eu un segment dont je ne vous ai pas parlé qui a été en une explosion, c'est le jet privé qui fait vivre avec d'autres formes de rentabilité mais qui fait vivre par exemple ces aéroports de low cost sur une forme secondaire hein, parce que les petits aéroports secondaires veulent tout sauf qu'il y ait des points liés avec Ryanair ou qu'il y ait des points liés avec EasyJet parce que ça fait trop mal effectivement après financièrement hein. Ils sont obligés de payer la compagnie low cost plusieurs millions d'euros par an et le reste. Quelques exemples, hein, aussi bien au Pays Basque qu'en Catalogne.
Voilà, on... à l'envers.
Oh non, en France aussi. Oui. Bon, il y a un deuxième niveau, vous l'avez vu, c'est la grande vitesse. En plus, je vous parle de grande vitesse, mais je ne vous parle pas du reste du réseau. Alors, j'en ai enlevé une couche. Mais là, c'est pharaonique. On crée 10 000 km de grande vitesse en une quinzaine d'années. On va dépasser le linéaire français de grande vitesse en trois fois moins de temps qu'il a fallu pour en faire. Bon, bien entendu, ce programme a été critiqué. Il y a bien des éléments pour le critiquer. On a au LVMT un thésard qui travaille sur cette question dans notre équipe. Néanmoins, c'est un outil qui est touristique et de loisirs. Il aura des effets très forts dans la restructuration du tourisme urbain et puis du tourisme vers les destinations touristiques nature, urbaines et de la côte, mais aussi un outil de connexion du transport voyageur au sens large à l'espace européen, avec une mise en réseau qui va superposer d'ailleurs deux réseaux. Je ne veux pas être trop longue, mais un réseau étoilé autour de Madrid qui va conserver sa centralité et un véritable trottoir littoral avec une continuité entre Montpellier et peut-être un jour Rabat. M. Sarkozy a vendu le TGV au Maroc quand même aussi. Et donc là, une logique littorale transversale qui commence à apparaître et dans laquelle ces villes dont je vous parle, ces villes anglaises, ont un rôle. Alors, sont-ce des îles, des enclaves, des pôles autonomes? Oui et non. Certaines d'entre elles sont peuplées à 60, 70, 80% d'étrangers. D'étrangers dans lesquels les Européens du Nord sont dominants. Et dans lesquels, d'ailleurs, les formes de gouvernance sont aujourd'hui, puisque nous sommes en Europe et que les Européens ont droit de vote aux municipales, sont administrés et gérés par ceux-là même qui y habitent. À la limite, c'est logique. Bon, mais ça c'est un petit peu la pointe de l'iceberg, c'est-à-dire c'est des éléments que je ne peux pas appeler caricaturaux, mais des éléments qui n'ont d'espagnol que le nom, et dans lesquels on est dans un territoire, voilà. Mais, ces enclaves, la réalité et l'intérêt de la chose, ce n'est pas l'enclave. Ce qui est plutôt intéressant à observer, c'est plutôt cette espèce de fusion qui est culturelle, qui est paysagère, qui est cette hybridation qui se produit et qui conduit au fait qu'on a des régions entières, régions à l'échelle de la communauté valencienne ou d'Andalousie, où bien sûr, vraiment le sommet de Fer de Lance, c'est l'île de Majorque, dont 30% de la population est étrangère et dont 50% de la population ou plus n'est pas née sur place, ce qui transforme profondément les manières de vivre. Et qui réinvente profondément tout le rapport à l'espace, me semble-t-il. Les sociologues, pas uniquement sur les mobilités, mais vont dans ces territoires en se disant c'est un petit peu une préfiguration de l'Europe qui nous attend. L'Espagne est le deuxième pays au monde après les États-Unis en termes de part de la population étrangère dans la population totale. C'est presque le double de la France. Ils n'ont pas eu la même politique, ils ont fait des régularisations massives, ils ont une autre attitude, je ne commente pas, mais ils construisent une autre société et ça se voit dans la ville, ça se voit dans les mobilités. Et ce n'est pas des enclaves, ça diffuse sur le territoire. Voilà ma conclusion, en tout cas ma vision des choses. Ça impacte toute la politique de la société.
Ce qui serait une autre perspective et un autre apport de ton exposé à notre réflexion sur l'avenir de la société française et son territoire. Je confirme parfaitement, de façon bien plus large, la distinction que tu fais entre low cost et compagnies régulières quant au choix des aéroports. Madrid, dans une moindre mesure, Barcelone sont des hubs parce que c'est des entreprises qui ont des réseaux. Les low cost n'ont que des navettes. Et donc, rentrent dans une logique de fonctionnement des circulations très différente et qui se traduisent par des choix d'aéroports très différents.
Iberia et British Airways ont fonctionné la semaine dernière, donc il y a des logiques aussi macro.
On va voir la fusion British Airways Iberia, ce que ça peut donner. Je crois qu'il est l'heure qu'on déjeune une dernière, pas trop longue, et puis on fait le break.
Je ne m'étendrai pas sur les conséquences écologiques de la rapidité de cette urbanisation et surtout les conditions architecturales dans lesquelles ça se fait, même si on est passé du grand ensemble au hameau de villa. Quand je vois les surfaces en question, j'ai des, quand même de gros doutes sur l'avenir de ces territoires et leur gestion par rapport aux conditions naturelles. Mais ma question ne portait pas sur ça. Si je ne m'abuse, je ne suis pas du tout spécialiste de la question, mais il est en train de se passer exactement la même chose entre Paris et l'aéroport de Beauvais, qui accueille aujourd'hui... Alors, je n'ai pas les chiffres, c'était ça ma question. Est-ce que vous avez un peu...
Vous donnez des effets d'échelle, oui.
Ouais, voilà.
J'étais mardi matin à l'aéroport de Carcassonne, qui est l'un des aéroports prototypes Ryanair, enfin, en plus qui est côté sud de France, etc., dans un département littoral comme l'Aude. Et donc, la réservation, c'est 437 000 passagers an. En fait, j'ai trouvé l'aéroport microscopique. Microscopique. Il faut multiplier par 10. C'est un rapport de 1 à 10 quand je vous parle des aéroports low cost espagnols. 1 à 10 en termes de fréquentation passager et aussi d'impact après que ça a, puisque 10 fois plus de personnes qui descendent de l'avion, c'est 10 fois plus de personnes qui vivent, travaillent, échangent, transforment l'espace. Oui, 4 millions, oui. On peut avoir des low cost à 3 millions, 4 millions d'arrivées. C'est de 1 à 10.